Et voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. La campagne de désobéissance civile au Soudan a débuté, vidant notamment la capitale de ses habitants. Reportage dans ce journal sur les barricades érigées par les manifestants. Dans leur rang, la question du recours à la violence commence à se poser.
Dans ce journal, nous irons aussi à Hong Kong, où le gouvernement maintient le projet de loi autorisant les extraditions vers la Chine. Hier, près d'un million de personnes ont manifesté contre ce texte.
L'Organisation internationale du travail a 100 ans pour sa conférence annuelle qui débute aujourd'hui. Elle pourrait statuer sur le harcèlement au travail et la robotique.
La décomposition se poursuit à droite. 72 élus locaux ont exprimé leur soutien à Emmanuel Macron hier dans une tribune. Nous dresserons leur portrait.
Après ce journal, dans son billet politique, Frédéric Saïs se demandera si Jean-Luc Mélenchon est fragilisé. Ce week-end, une figure clé des Insoumis a quitté le mouvement. Des rues désertes, des magasins fermés, des transports à l'arrêt et dans les rues des barricades. Khartoum, capitale du Soudan, est depuis hier une ville fantôme. Le mouvement de désobéissance civile a débuté. Il y a déjà des victimes. Le comité central des médecins soudanais évoque 4 morts et une tension croissante. Preuve en est avec ce reportage de Sébastien Nemeth à Khartoum.
Les habitants de Barkhir remontent une de leurs barricades avec prudence. À la moindre alerte, ils sont prêts à décamper, notamment car un jeune a été abattu. Faisal Mohamed a vu la scène.
Les gens ont commencé les barricades hier en prévision de la journée. À 5 heures, ils sont sortis vérifier l'état des barrages. Les habitants étaient pacifiques, sans armes. La police est arrivée et a tiré. Pas en l'air, elle nous visait. Je me sens très triste. La police est censée nous protéger, pas nous tirer dessus.
Soudain, un groupe de gens passe devant le barrage. Ils transportent Al Rangareb, le lit familial dans lequel le corps du défunt est transporté jusqu'au cimetière. Dans le cortège, on sent beaucoup de colère. Certains, comme Sarig Ali Sarig, tiennent d'ailleurs des propos très inquiétants.
On se fait abattre comme des moutons. Il faut qu'on nous donne des armes. On est des hommes, on peut les tuer. On est tous capables de tenir une arme. Les politiciens nous mentent. Le combat est trop déséquilibré.
Mais tout le monde n'est pas d'accord. Certains jugent ces paroles extrémistes. Youssouf Zakari Ahmed est un soudano-syrien, il sait de quoi il parle.
J'ai vécu en Syrie jusqu'en 2013. Il n'y a pas de sécurité, vous ne pouvez aller nulle part. Vos enfants ne vont pas à l'école, il n'y a pas de nourriture. La violence n'est pas la solution, ce qu'il faut c'est une pression internationale.
Les civils tentés par la violence sont encore rares, mais si la répression continue et que l'économie poursuit sa déliquescence, le Soudan pourrait tomber dans une spirale hors de contrôle.
Sébastien Nemeth, correspondant de RFI à Khartoum pour France Culture. Je rappelle que depuis la destitution par l'armée du président Omar el-Béchir le 11 avril dernier, les protestataires réclament un transfert du pouvoir aux civils et non aux militaires. Au chapitre des contestations populaires encore, cette manifestation monstre à Hong Kong hier, la plus importante d'ailleurs depuis la rétrocession à Pékin en 97. Près d'un million de personnes vêtues de blanc ont défilé contre un projet de loi, un texte qui permettra de faciliter le transfert de suspects vers la Chine continentale pour qu'ils soient jugés. Ce matin, le gouvernement de Hong Kong, pro-Pékin, annonce qu'il ne retirera pas ce projet de loi. Florence de Changy.
Entêté dans sa démarche de faire adopter ce texte facilitant l'extradition vers la Chine, la chef de l'exécutif de Hong Kong persiste et signe. Lundi en fin de matinée, Carrie Lam a déclaré à la presse qu'elle maintenait le projet de faire examiner ce projet de loi en session plénière du Parlement mercredi. Elle a également indiqué qu'elle n'avait pas l'intention de démissionner, alors que de nombreux posters brandis par des manifestants dimanche après-midi lui suggéraient de démissionner ou même, pour les plus ironiques, de se faire extrader en Chine. Elle a néanmoins remercié les Hongkongais d'avoir exprimé leur opinion, favorable ou non. Le contrôle attentif de notre travail est un facteur important pour améliorer la gouvernance de Hong Kong, a-t-elle déclaré. Des propos qui ne manqueront pas de contrarier le camp pro-démocratie qui espérait des résultats concrets à cette mobilisation historique dont l'ampleur a dépassé les espoirs les plus optimistes et qui se demande à présent quelle stratégie adopter, quelle carte reste-t-il à jouer pour faire fléchir le gouvernement.
Florence de Changy depuis Hong Kong ce matin. Ils seront au moins 11 candidats qui espèrent remplacer Theresa May à la tête du Parti conservateur puis à la tête du gouvernement en Grande-Bretagne. Le premier d'entre eux, Boris Johnson, fait la course en tête à quelques heures du début de la campagne. L'ancien ministre des Affaires étrangères menace déjà. Il ne paiera pas la facture du Brexit tant que l'Union européenne ne proposera pas à Londres de meilleures conditions de divorce. C'est un débat commun, quels que soient les les pays et les réglementations. Comment encadrer la fin de vie et par quels moyens? En Suisse, la mort se fait parfois sur ordonnance. On n'y parle pas d'euthanasie mais de suicide assisté. Leur nombre augmente chaque année en Suisse et les critiques qui vont avec, comme l'a constaté Jérémy Lanche.
Tout à coup, une lettre écrite dans la boîte aux lettres « Je vais mourir mardi 18 ». Vlan.
Plus de 2 ans après le décès de son frère, Claude Mermot ne décolère pas contre ce qu'il appelle la banalisation du suicide assisté. Ce fringant septuagénaire se dit pourtant favorable à l'euthanasie pour des personnes en fin de vie, sauf que son frère Charles n'était pas gravement malade, mais simplement âgé.
Il avait conclu sa lettre en me disant « Écoute, si jamais ça te perturbe, je peux t'aider pour pouvoir faire un départ avec un au revoir harmonieux. » Mais un au revoir harmonieux quand le gars est en bonne santé, ça fait problème.
Malgré une décision de justice qui suspend la procédure, Charles se donnera la mort quelques semaines plus tard. Claude Mermot mène depuis une bataille contre les associations d'aide au suicide. Les demandes d'adhésion explosent depuis plusieurs années. Gabriella Jonin est accompagnatrice pour l'association Exit.
Depuis le début de cette année, on a 40% d'augmentation des personnes qui s'inscrivent. C'est pour eux une sécurité, se dire si un jour il nous arrive quelque chose, on a ce choix.
Plusieurs conditions sont requises, avoir sa capacité de discernement, pouvoir réaliser le dernier geste. Le code pénal suisse ne pose finalement qu'une seule limite, l'aidant ne peut pas bénéficier de la mort de la personne.
On a beaucoup de chance, on en vit beaucoup de pays voisins. Moi je dis toujours que c'est une assurance pour une bonne mort choisie.
Un peu plus de 1200 personnes sont mortes avec l'aide d'Exit l'an passé. En tout, l'association estime que l'aide au suicide représente 1,5% de tous les décès en Suisse.
Renault, partenaire et principal actionnaire de Nissan, menace de bloquer une réforme de la gouvernance de l'entreprise japonaise. Le constructeur français craint en effet de perdre de l'influence avec cette réforme. Hier, le ministre de l'économie Bruno Le Maire réaffirmait encore le caractère essentiel de l'alliance entre Renault et Nissan.
8h07 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. L'Organisation internationale du travail fête ses 100 ans cette semaine.
Elle est la seule création du traité de Versailles en 1919 qui a survécu. C'est une sorte de parlement mondial du travail qui réunit représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs. L'OIT a donc 100 ans et sa conférence annuelle qui s'ouvre aujourd'hui à Genève sera particulière. Marie Viennot, elle sera hors norme.
Hors norme, la conférence qui démarre aujourd'hui à l'Organisation internationale du travail l'est d'abord par la présence de plus de 40 chefs d'État. Habituellement, on les compte sur les doigts d'une main, ce sont les ministres du travail qui font le déplacement. Mais cette année, dans l'enceinte du Palais des Nations Unies, où se tient la conférence, on entendra notamment les présidents français, ghanéens, maliens et d'Afrique du Sud, et pour les chefs de gouvernement, Angela Merkel, Theresa May et Dimitri Medvedev. En parallèle de ces discours, 5000 délégués se répartiront entre diverses commissions. L'une d'elles vérifie que les conventions sur les normes du travail qui ont été ratifiées par les pays sont effectives. 24 États devront d'ailleurs répondre de leurs manquements lors de la conférence. Centenaire oblige, cette année une commission planche sur une déclaration générale du centenaire, sorte de déclaration programmatique sur les priorités de l'OIT pour le siècle qui vient. Les syndicats espèrent aussi que ces 2 semaines permettront d'adopter une nouvelle convention, la 190e, sur les violences psychiques et physiques au travail. Hors norme, enfin, cette conférence de l'OIT pourrait l'être, car il ne manque qu'un pays pour que la convention sur les pires formes du travail des enfants soit ratifiée par la totalité des États membres de l'OIT. Cette convention serait alors la première de portée universelle, un symbole que tout le monde espère pour les 100 ans.
Marie Viennot, dont vous pouvez réécouter le reportage de la rédaction. Il a été diffusé tout à l'heure à 7h24 et était consacré à la liberté syndicale. À retrouver donc dès maintenant avec des chiffres et des graphiques à l'appui sur franceculture.fr. Le travail encore et le travail en ce lundi de Pentecôte. En France, plusieurs millions de salariés participent au jour de solidarité. Une journée instaurée en 2004, journée non payée, qui finance en fait l'aide des personnes en situation de dépendance ou de handicap. Ce n'est pas aux salariés de choisir, mais à son employeur. Ce salarié travaillé donc ce lundi travaillé par certains devrait rapporter près de 3 milliards d'euros. Grâce, selon le gouvernement, à la solidarité des salariés, il est même question d'envisager une deuxième journée de solidarité en France. Une idée pourtant que conteste fermement Joseph Touvenel, il est vice-président de la CFTC.
La solidarité, c'est un acte volontaire. Je rends hommage aujourd'hui à ceux qui vont profiter du lundi de Pentecôte pour aller voir les personnes dépendantes et les personnes âgées. Ça, ce sont des gestes de solidarité. Sortons de la com. Si c'est pour me dire « il faut trouver de l'argent pour le financement », oui. Une deuxième journée, me dit-on, ça veut dire doubler une taxe. Alors le gouvernement...
Pour vous, c'est inenvisageable.
Non, c'est pas inenvisageable. Si le gouvernement veut doubler des taxes, c'est sa responsabilité. qu'il ne nous parle pas de deuxième journée de solidarité, qu'il nous dise...
C'est-à-dire qu'il taxe davantage les entreprises, oui, mais pas en faisant travailler plus les Français.
Mais ça n'a rien à voir. Oui. Écoutez, je vous fais travailler pendant un mois sans vous payer, d'accord ? 0,3% du mois que vous ne toucherez pas, ça fera toujours zéro. Parce que je ne suis pas énarque, mais je sais que 0,3% de zéro, ça fait zéro. C'est-à-dire la seule journée qui ne rapporte rien à la dépendance, c'est le jour où on me dit « vous devez travailler ». Mais vous n'êtes pas payé.
Le vice-président de la CFTC, Joseph Touvenel, interrogé ce matin par Marc Fauvel. C'est un nouvel épisode dans la crise à droite et notamment au sein du parti Les Républicains. 72 élus de droite et du centre ont exprimé leur soutien à Emmanuel Macron dans le journal du dimanche hier. En tête, le maire d'Angers, Christophe Béchu. Il estime que les élus de droite seront plus d'une centaine à avoir rejoint le collectif d'ici le milieu de semaine. Mais pourquoi rejoindre la majorité et surtout qui sont ces élus ? Analyse ce matin du politologue et professeur à Sciences Po à Bordeaux, Jean Petaut.
Quand on regarde, on voit une surreprésentation de maires issus de l'ouest de la France, ou un petit peu d'Alsace aussi, donc dans des traditions, j'allais dire, démocrates chrétiennes de l'électorat, les Républicains. La composante, j'allais dire, la plus démocrate chrétienne au sein des Républicains. Et vous avez très peu, par exemple, de maires du Sud-Est, où là, le Front National est très présent, enfin, le Rassemblement National, et où les électeurs RN sont susceptibles d'être renforcés par des électeurs des Républicains qui quitteraient LR. Donc on voit que ce sont plutôt des élus de centre-droit qui, d'une certaine façon, anticipent une concurrence qui leur viendrait de La République En Marche vis-à-vis d'un électorat qui est assez réceptif, on va dire, puisque là encore, il y a un calque qui peut être fait entre les scores réalisés par la liste L'Oiseau aux européennes, ces départements dans lesquels un certain nombre de maires se rallient à la politique du président de la République. Donc on peut effectivement considérer qu'il y a là une forme d'approche un peu tactique du ralliement.
Jean Petaut, politologue et professeur à Sciences Po Bordeaux. Ils seront ce matin sur l'eau au port des Sables d'Olonne pour un hommage à leurs collègues. Les sauveteurs vendéens de la SNSM vont accompagner sur leur bateau la marche silencieuse prévue aujourd'hui le long du littoral. Hommage aux trois sauveteurs morts vendredi alors qu'ils tentaient de sauver un pêcheur pris par la tempête Miguel. Elle était inédite dans les banlieues. Une marche des fiertés a eu lieu hier à Saint-Denis au nord de Paris. Une marche pour lutter contre l'homophobie dans ces quartiers, pour rendre aussi plus visibles les personnes LGBT. Plus d'un millier de personnes ont participé à ce rassemblement, même si dans le cortège, plusieurs positions s'opposaient, Manon Dédervet.
Les drapeaux aux couleurs de l'arc-en-ciel flottent au-dessus de Saint-Denis. L'occasion pour Lies Alouane, 22 ans, de dénoncer les violences homophobes dont il a été victime chez lui à Gennevilliers, dans le département des Hauts-de-Seine. Pour lui, être homosexuel et vivre en banlieue est impossible.
En banlieue, dans les quartiers populaires notamment, il est très difficile d'assumer son homosexualité, son orientation sexuelle, son identité de genre, contrairement à Paris. À Paris, on peut se montrer, on peut tenir la main de son copain, mais en banlieue, on est vraiment en arrière dans le temps. Voilà, c'est tabou, c'est agression sur agression.
Mais ce discours est très contesté dans le cortège et cela crée même de vives tensions avec Majid Messaouden, conseiller municipal délégué à l'égalité des droits à Saint-Denis. Pour lui, il ne faut surtout pas stigmatiser les banlieues populaires.
C'est pas une zone homo pour les LGBT, les quartiers populaires. On peut pas essentialiser comme ça des dizaines de millions de personnes. C'est des zones où ces questions-là ne sont pas assez visibles. Mais c'est pas plus dur d'être homo dans un quartier populaire que dans une ville bourgeoise comme Versailles. Donc il faut qu'on n'aborde ces questions-là pour que les personnes LGBTI des quartiers populaires se rendent compte que oui, elles sont acceptées en tant que telles dans la ville, que oui, elles sont légitimes à y vivre et qu'il n'y a aucune raison qu'elles soient discriminées et qu'elles doivent aller à Paris pour aller trouver de l'aide ou refuge.
Le chantier est donc important, mais pour les organisateurs, cette première édition de la Marche des Fiertés des banlieues est une réussite. Ils espèrent désormais que cela permettra de donner plus de moyens aux associations qui luttent au quotidien contre les violences homophobes dans les quartiers populaires.
C'était un reportage de Manon Dédervet à Saint-Denis pour France Culture. Le temps de ce lundi, il sera toujours instable avec le passage d'averses, notamment sur le nord et sur l'est du pays ce matin. Averses qui vont devenir orageuses dans l'après-midi sur la Normandie. Comptez dans la matinée 13 degrés à Rennes, 16 degrés à Paris et Bordeaux, 17 degrés à Lille, 18 à Strasbourg et Lyon et 26 degrés ce matin sous le soleil de Marseille.